Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de vous faire le point de l'actualité ici sur Radio Okapi. Bienvenue dans votre journal présenté par Gisèle Cage. Diplomatie économique à Buenos Aires, les ministres Thérèse Kayikwamba Wagner et Julien Paluku scellent des accords stratégiques avec l'Argentine dans le cadre de la coopération sud-sud et de l'intégration commerciale régionale. RDC Rwanda sous l'égide de l'Union africaine, Kinshasa et Kigali lancent la première réunion du mécanisme conjoint de sécurité fruit de l'accord signé à Washington pour désamorcer les tensions et neutraliser les groupes armés. Ituri, après les massacres de Komanda, quelle stratégie pour briser le cycle de violence et restaurer une paix durable? Gabriel Soniaou, président de la société civile de Walese Vonkutu, est notre invité. Il décrypte la situation sécuritaire sur le terrain et propose des pistes concrètes pour sortir de l'impasse sécuritaire. C'est l'image forte de ce journal. La RDC renforce ses liens avec l'Amérique du Sud en pleine mission diplomatique en Amérique du Sud. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, accompagnée de son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, a marqué un temps fort ce vendredi 8 août à Buenos Aires. Les deux officiels congolais ont été reçus par Gerardo Huartem, ministre argentin de Relations extérieures, du commerce international et du culte pour une réunion de haut niveau aux enjeux majeurs. Objectif, renforcer la coopération sud-sud à travers des partenariats stratégiques multisectoriels au cœur des échanges, la consolidation des relations bilatérales, la signature d'accords commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange sud-américaine Mercosur et l'équivalent de la zone de libre-échange continentale africaine ZELCAF, ainsi que des réformes fiscale audacieuse, notamment la suppression des taxes dites toxiques afin de séduire les investisseurs argentins. Julien Paluku revient sur les grandes lignes de cette rencontre dans cet extrait sélectionné par Blaise Chindani.
Les échanges que nous avons eus nous ont permis de découvrir la trajectoire que l'Argentine a suivie pour devoir la dupliquer sur ce que nous comptons faire en RDC de manière à accroître la capacité de la RDC à être un acteur majeur dans le commerce international. Et donc, nous avons clôturé par une grande recommandation. C'est une mission économique qui va devoir se rendre ici en Argentine, composée d'opérateurs économiques, mais également d'acteurs étatiques, pour venir voir exactement ce qui a été fait avec l'Agence nationale de promotion des exportations et l'ANAPI, pour qu'ensemble, nous nous rassurions que le modèle économique que nous avons trouvé ici peut être adapté aux réalités congolaises. Ça, c'est un élément très important. Et à l'issue de cette mission économique qui viendra ici en Argentine, il sera organisé maintenant le forum économique RDC Argentine avant de participer à l'Expo Argentine qui sera organisée au mois de mars 2026.
Sécurité régionale. Le 7 et 8 août, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une étape décisive dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier. C'est au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba que s'est tenue la toute première réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Selon un communiqué du département d'État américain, ces mécanismes visent à concrétiser le plan harmonisé pour neutraliser des rebelles de FDLR, le retrait des forces armées, la levée des mesures défensives du côté rwandais. Il prévoit également un partage renforcé de renseignements autour du table, les États-Unis, le Qatar, la Commission de l'Union africaine et le représentant du médiateur de l'Union africaine salué par Kinshasa et Kigali pour leur rôle dans la stabilisation de la région. Nouvelle flambée de violence dans l'est de la RDC. Au moins 6 personnes, dont 4 militaires des FARDC, ont perdu la vie dans une attaque survenue dans la nuit de jeudi à vendredi à Nyamamba, dans la plaine du lac Albert, au territoire de Djougou, à environ 70 km au sud de Bounia. Plusieurs autres personnes ont été blessées. L'attaque est attribuée à la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP, dirigée par Thomas Lubanga. Les affrontements ont duré jusqu'au matin du vendredi, plongeant la région dans une nouvelle spirale d'insécurité. Isaac Remoyope pour les détails.
Les miliciens de la CRP sont toujours actifs dans la plaine du lac Albert. Jeudi soir, ils ont pris d'assaut une position avancée des FARDC à Nyamamba. L'armée a riposté et les affrontements se sont prolongés jusqu'à vendredi matin. À Tchomi, à 7 km de là, les habitants affirment avoir attendu des détonations au petit matin. Bilan provisoire, au moins 4 militaires tués et plusieurs blessés transférés à Bounia pour soins. Des sources locales avancent un chiffre plus lourd. À Mita, village voisin, des femmes ont également été tuées. Meurtre attribué à un militaire FARDC qui aurait pris les victimes pour des ennemis. Les organisations locales déplorent l'activisme persistant de la CRP qui empêche des milliers d'habitants des camps de pêche Nyamamba, Café, Mbogi de regagner leur village. Elle regrette aussi l'absence d'implication des militaires ougandais basés à Sabé, censés appuyer les FARDC dans les démantèlements de ces groupes armés. Nous n'avons pas encore obtenu la réaction de l'armée face à cette situation sécuritaire toujours volatile. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Alors, insécurité à Sake, au Nord Kivu, les habitants de plusieurs quartiers de la cité de Sake, dont le groupement, c'est le groupement Kamuronza, ont vécu une nuit d'angoisse entre vendredi et samedi. Selon des sources locales, pas moins de 21 maisons ont été la cible de cambriolages perpétrés par des hommes armés. Le fait se sont déroulés sur les avenues Luhunga et Boumalave, dans les quartiers Ndolero. Une série d'attaques coordonnées qui ont sémé la panique et laissé les populations sous les chocs. Jean Gandou nous en dit plus.
L'on parle de plusieurs biens des valeurs extorqués et emportés par des bandits, notamment des effets vestimentaires, des téléphones portables et même des chèvres. Les habitants du quartier Bikali ont aussi été victimes de la brutalité de ces individus qui les ont dépossédés de plusieurs de leurs biens. La cité de Sake, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma, accueille depuis février dernier plusieurs familles des personnes déplacées internes que la rébellion du M23 a contraint de quitter Goma en démantelant les sites et camps qui étaient érigés dans et autour de la ville. C'est ainsi que des milliers des personnes sont réparties vers les localités rurales, dont Sake. Plus de 6 mois après, leur intégration n'est pas totalement effective. Outre qu'elles continuent à avoir besoin d'assistance humanitaire, ces personnes affrontent presque au quotidien les conséquences de l'insécurité. Les efforts des jeunes volontaires qui organisent des patrouilles nocturnes pour tenter de dissuader les brigands ne suffisent pas. S'attaquer aux porteurs d'armes à main nue n'est pas chose facile. C'est dans cet environnement que le chef de la localité de Kimoka a été abattu dans sa résidence de la cité de Sake. Une semaine après le meurtre, les auteurs courent encore et les résultats de l'enquête annoncée par la rébellion sont toujours attendus, constatent quelques habitants de Sake.
Vendredi noir à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. La ville a été le théâtre de 2 incendies distincts. Le premier s'est déclaré à la station-service PMJ sur le boulevard Katuba, causant d'importants dégâts matériels. Le second, bien plus tragique, a coûté la vie à la députée nationale Sophie Kakudji-Yumba. Paulin Munanga revient sur les circonstances de ces deux drames.
Il est 15h45 heure de Lubumbashi lorsque l'incendie se déclare à la station service PMJ située sur le boulevard Katuba au niveau des 5 Payotes dans la commune Kamalondo. C'est dans un quartier résidentiel. D'après des témoins, un camion citerne aurait explosé et les flammes se sont rapidement propagées. Mais l'origine de ces feux n'est pas encore déterminée. La circulation a été perturbée et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Quelques véhicules consumés par les flammes, des commerces voisins à la station service et des installations de la SNEL également touchées par les feux. La station service PMJ n'est pas épargnée. Elle est complètement calcinée, raconte des témoins. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Signalons que c'est la deuxième fois en l'espace d'une année qu'une station service brûle sur ce même boulevard. Victime d'un autre incendie, la députée nationale Sophie Kakudji-Yumba, élue de Kabalo dans la province du Tanganyika, est décédée tragiquement ce vendredi à Lubumbashi dans des circonstances encore non élucidées. Rapporte des sources. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Kinshasa, coupure d'eau annoncée dans plusieurs quartiers de lundi matin. Dans un message parvenu à Radio Okapi ce samedi, la régie des eaux annonce une interruption temporaire de la desserte en raison des travaux en cours sur les modules 3 de son usine située dans le quartier Ozone, commune de Ngalima. Les quartiers concernés sont Ozone, Kamunganga, Gramalik, Météo, Mpunda, Delvo, Upen, Sangamamba, Kingu, Pigeon, Ma Campagne, Montfleury, Jamaïque et Nganda. La coupure donc touchera également les communes des Bandalungwa, Kintambo, Ngiringiri et une partie des Silimbao. Jude Mister Bilonda nous donne les détails.
La régie des eaux indique qu'elle veut mettre ses modules sous tension électrique pour la mise en marche des pompes et autres machines. Deux nouveaux transformateurs seront installés à partir de ce lundi 11 août. Et pour que ces travaux s'effacent, la régie des eaux prévoit une interruption du courant électrique à partir de l'usine jusqu'au mardi matin. Ces travaux dureront environ un jour, mais il faudra quelques heures additionnelles avant que l'usine ne soit mise en service et ne permette à l'eau de voyager dans tous les réseaux. La régie des eaux renseigne qu'elle a pris des dispositions pour donner de l'eau par camion-citerne sur commande. Elle demande aux abonnés d'avoir des stocks suffisants pour répondre à leurs besoins. Elle rassure qu'elle fera de tout son mieux pour terminer les travaux à temps et rétablir la situation le plus tôt possible.
La situation du choléra reste inquiétante dans la province du Maniema. Dans un point de presse animé ce samedi, le ministre provincial à l'intérim de la Santé parle de 4277 cas, dont 167 décès, comme situation épidémiologique actuelle du choléra dans cette province. Ainsi donc, ce dernier fait savoir que cette situation appelle à une mobilisation immédiate, collective et multisectorielle. Maître Francis Masumbuko Lutaka loue cependant les efforts du gouvernement provincial avec l'appui de ses partenaires dont OMS et UNICEF dans la lutte contre cette maladie. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
À partir d'avril de cette année, l'épidémie est toujours présente et continue de représenter une menace sérieuse pour la santé de nos populations. À ce jour, notre province a enregistré 4277 cas de choléra, dont 167 décès, ce qui représente un taux de létalité de 3,9%, bien au-dessus de la norme acceptée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui est inférieure à 1%. Actuellement, la dynamique de l'épidémie a évolué. Nous observons désormais une propagation inquiétante dans une nouvelle zone de santé, à savoir Pangi, et augmentation dans la zone de santé, notamment de Kunda, avec 42 cas, 5 décès et un taux de létalité de 11,9%. Dans la zone de santé de Pounia, 30 cas, 5 décès avec un taux de létalité de 10%. Également à Ferikeni, 25 cas, 1 décès, un taux de létalité de 4%.
Le village de Boussawa, situé à Mwinga Centre dans la province du Sud Kivu, est en deuil. En l'espace de 24 heures, deux membres d'une même famille ont perdu la vie, visiblement victimes d'une intoxication alimentaire selon les informations relayées par la société civile locale. Mukamba Milenge, coordinateur ad intérim de cette structure, indique qu'il s'agit du troisième cas similaire enregistré dans ce village. Il appelle les autorités compétentes à ouvrir une enquête urgente pour faire la lumière sur ces décès inquiétants. Un témoignage recueilli par Ronely Tibonera.
Nous appelons la population de Mwinga Centre en particulier et tous les territoires en général à la solidarité et au respect des droits à la vie. Cet événement est le troisième cas dans le village de Boussawa. Nous citons la famille Masumbuko Atongoka et de Machozi Mama Sabua, précédemment menacé. L'auteur de cet acte serait dans ces villages, vit la répétition de ces catastrophes, d'où la nécessité d'agir dans l'urgence.
Actualité internationale.
Au moins 18 civils ont été tués jeudi dans le Kordof Nord, à l'ouest du Soudan, lors d'une attaque attribuée aux forces de soutien rapide FCR, selon l'ONG Emergency Lawrence. L'organisation qui documente les exactions depuis les débuts du conflit précise que l'assaut a visé deux villages situés dans le sud de la région d'Oum Korodan, faisant également des dizaines de blessés. Faute d'infrastructures médicales sur place, les blessés ont été transférée vers El Obeid, ville stratégique située à quelques dizaines de kilomètres au sud-est. Cette localité qui relie Khartoum au Darfour avait été assiégée par le FSR pendant près de 2 ans avant d'être reprise par l'armée en février. Le cordofan nord reste largement isolé, les lignes de communication étant quasi inexistantes, tandis que les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires s'y poursuivent. Depuis la reconquête de Khartoum par l'armée en mars, le FSR ont intensifié leur offensive dans l'ouest du pays, notamment au Darfour, qu'ils contrôlent presque entièrement.
L'invité.
À Komanda, dans le territoire du Rumu, la vie reprend peu à peu son cours après le massacre de 43 civils dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier. Mais la peur restait palpable. Des hommes armés continuent d'être signalés dans les environs, entretenant un climat d'insécurité. Malgré la présence des FARDC et des forces partenaires engagées contre les ADF, les résultats concrets tardent à se faire sentir. C'est le constat dressé par Gabriel Soniaou, président de la société civile de la chefferie de Wales et Vondkoutou, invité de ce journal. Il analyse la situation sécuritaire et propose des pistes de sortie de crise dans cet entretien accordé à Jean-Claude Lokidile.
Gabriel Soniaou, bonjour. Comment se présente la situation sécuritaire dans cette entité depuis les drames survenus ici la nuit du 26 au 27 juillet dernier?
Et après l'événement de tuerie de la population à l'église catholique, la paroisse Saint-Anouarite de Komanda, au niveau de la chefferie de Wales et Vokutu, nous sommes vraiment en insécurité, surtout dans les groupements Banda Vilemba et le groupement Bapulu. Les présumés ADF sont en dans les dégroupements de part et d'autre, et ils circulent aussi partout dans les dégroupements précités. Nous avons des informations par-ci par-là, et la population qui pénètre dans la forêt, ils les voient et ils sont là, et ils sont en train aussi de tuer les gens.
Et cela a des conséquences sur les activités de la population, notamment qui vit ici essentiellement de l'agriculture. Donc vous l'avez évoqué, il ne peut pas accéder à l'action.
Oui, effectivement, il y a des conséquences parce que notre population, c'est une population agricultrice et la population n'a pas droit d'entrer dans leurs champs. Et surtout dans les groupements Bakulu, ces ADF demandent aux agriculteurs de payer $25, $30 pour qu'ils accèdent dans leurs champs. Alors cela affecte directement la vie de la population. Et vers le groupement Banda Vilemba, la population n'entre pas au-delà de 5 km. Alors la population est en train de surmonter une vie pénible parce qu'ils n'ont pas accès à leur champ.
Comme ils n'ont pas accès à leur champ, ça impacte aussi sur leur vie sociale. Et de l'autre côté, est-ce que vous pensez aussi que ça joue aussi sur la production, parce que nous savons que c'est la périphérie qui alimente le centre commercial de Komanda, notamment en plus de produits vivriers.
Comme ils n'entrent pas dans leur champ, ils sont pénalisés sur le plan social et économique parce qu'ils n'ont pas un autre moyen pour vivre. Ils dépendent surtout de l'agriculture. Alors comme ils n'ont pas l'accès d'entrer dans leur champ, et ils manquent même comment ils vont préparer même la rentrée scolaire de leurs enfants.
Gabriel, quelles sont vos recommandations, du moins les principales que vous formulez, pour que soit pu améliorer la situation sécuritaire dans cette entité?
Premièrement, nous demandons au gouvernement, tant que provincial et national, à travers la force de défense et de sécurité, de lancer une opération de grande envergure, surtout dans toute la chefferie de Wales et Vokutu, pour traquer sérieusement ces ADF et neutraliser tous les bastions qui se trouvent dans la chefferie de Wales et Vokutu. Nous demandons aussi la coordination des forces parce que dans l'autre côté, surtout dans le groupement Banda Vilemba, il y a des unités militaires qui dépendent du Nord Kivu. Alors là, il n'y a pas une bonne coordination. C'est pourquoi nous demandons à notre hiérarchie militaire de bien coordonner les unités militaires qui opèrent dans la chefferie de Wales et Vokutu. Cela va nous aider beaucoup plus parce que en cas d'intervention, on n'aura pas de coordination, on aura une seule coordination de notre secteur opérationnel de l'Ituri.
Vous avez aussi évoqué le problème de déficit de communication, notamment des réseaux de télécommunication. Vous pensez que ça aussi c'est un handicap pour mieux ou bien sécuriser la population et ses biens?
Nous avons un problème de communication. Dans notre différents villages, il n'y a pas de réseau, il n'y a même pas des antennes pour mettre quand même la communication. C'est pourquoi, en cas de problème, nous avons une difficulté de la coordination des messages. C'est pourquoi nous demandons aux partenaires de nous aider à implanter des antennes là où il n'y a pas de raison pour que nous puissions être en communication à tout moment avec notre base.
Vous pensez que si ces conditions sont réunies, on pourra rétablir la sécurité, parce que vous avez évoqué aussi la situation de ces milliers de personnes déplacées qui vivent ici. Mmh. C'est la rentrée scolaire et aussi vos enfants qui sont encore ici étudient dans des conditions pas très bonnes.
Oui, nous avons évoqué ça aussi parce que ici à Komanda, nous sommes à déplacement. Et la plupart des déplacés sont de la population de Wallis et Vaucoute. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'instaurer la sécurité pour que ces déplacés rentrent dans leurs milieux respectifs et pour la prochaine rentrée scolaire, que nos enfants puissent étudier dans leurs écoles respectives.
Gabriel Soniaou, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Gabriel Soniaou, président de la société civile de Wallis et Vaucoute, nous a livré son analyse sur la situation sécuritaire à Komanda. C'est la fin de cette édition du journal sur Radio Okapi. À la présentation, Gisèle Cage, avec à la mise en onde Pierre Diassinoir et à la coordination éditoriale Jude Mister Bilanda. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations détaillées, rendez-vous sur notre site officiel www.radiookapi.net. À très bientôt.